15.
Tous les jours, 18h45, 15 minutes d'actu.
15 minutes d'actu.
15 jusqu'à 19h.
Avec Sarah Loubacouche.
Move! Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, c'est le milieu de semaine, on peut dire que c'est quasiment presque le week-end, et si vous êtes un peu tristoun parce que vous trouvez qu'il fait trop froid, venez donc vous réchauffer chez vous dans 15, votre rendez-vous d'actualité quotidien, un 15 spécial élection européenne toute cette semaine où on voyage, mais sans faire exploser notre bilan carbone. Notre train numéro 15 nous emmène aujourd'hui en Italie, où pour le scrutin de juin, les jeunes semblent un peu laissés de côté, et d'ailleurs ce scrutin, on va continuer à le décrypter avec Estelle, notre askipeuse préférée. Salut Estelle.
Salut Sarah Lou.
Les députés européens travaillent en groupe au Parlement.
Ils ne sont pas répartis par nationalité, mais par couleur politique.
Et puis comme chaque vote compte, Lorenzo nous montrera que les bulletins de vote ne sont pas vraiment faits pour être gribouillés parce que ça peut perturber les résultats d'une élection. Alors vous avez le programme, mais pour commencer, ça dit quoi dans l'actu ?
15.
Ça dit un mot aujourd'hui, restriction.
Sur les platines du couvre-feu, ouais c'est dangereux, c'est comme ça que ça se passe, pas la peine d'aller chercher ailleurs. Couvre-feu c'est dangereux.
Une restriction majeure pour la jeunesse, le couvre-feu pour les mineurs. C'est une interdiction de sortir le soir avec comme justification la sécurité. Ça a d'abord été mis en place à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. L'idée a ensuite été reprise par Christian Estrosi, le maire de Nice. Dès le 1er mai à Nice, les moins de 13 ans ne pourront plus sortir après 23 heures. Et c'est aussi ce que veut faire Robert Ménard, le maire d'extrême droite de Béziers. Mais pour Sophie Mazas de la Ligue des droits de l'homme de l'Hérault, ce n'est pas au maire mais au préfet d'agir et de faire appliquer les textes.
Béziers n'est pas un État dans l'État et Béziers n'est pas un État d'extrême droite dans l'État de droit. Béziers, c'est une commune et donc le maire de Béziers ne peut pas remplacer le législateur. Il ne peut pas édicter une législation sur la pénalisation des mineurs qui seraient la nuit dans la rue puisque la loi prévoit déjà des dispositifs. La loi, elle dit que s'il y a un mineur dans la rue, on le ramène et on saisit un juge pour voir si le mineur a besoin d'aide et d'accompagnement éducatif. Ce que fait Ménard, c'est pas ça. C'est on trouve un enfant dans la rue, on fait une sanction. Et il n'y a pas de juge qui intervient, il n'y a pas d'adulte qui se préoccupe de l'enfant. La justice pénale des mineurs accompagne l'enfant s'il a des besoins et s'il est en danger. C'est pas du tout la logique dans laquelle se place le maire de Béziers.
Si le préfet ne bouge pas, la Ligue des droits de l'homme va saisir la justice afin d'annuler ce couvre-feu.
Je déverse mon amertume. Combien de larmes ma rage écume. Combien de fois, combien de femmes, combien au succombé aux frappes du mal et son culte. Ouais.
L'Europe, on vous en parle toute cette semaine dans 15, puisqu'en juin, on vote pour renouveler le Parlement. Parlement européen qui vivait aujourd'hui un moment historique avec l'adoption d'une directive pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une belle avancée, mais pour certains députés, ce n'est qu'une, je cite, demi-loi, parce que le texte est assez restrictif. Il exclut le viol. Les États membres, en fait, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une définition commune basée sur le consentement. Par exemple, la France n'y adhère pas à cause de la définition du viol dans notre pays, qui repose davantage sur l'auteur du crime. C'est ce qu'explique la professeure de droit pénal à Paris-Nanterre, Audrey Darsonville.
C'est le fait que l'auteur ait utilisé la violence, la contrainte, la surprise ou la menace. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que si on ne peut pas démontrer un de ces quatre modes opératoires, le viol ne peut pas être démontré.
Alors rajouter le terme « consentement » permettrait donc d'inverser l'approche.
Qu'elle ne soit pas une enquête dans laquelle on va demander à la victime la démonstration que l'auteur a utilisé les quatre modèles dont j'ai parlé, mais en fait on va demander à l'auteur s'est-il intéressé au consentement du partenaire.
La France, mais aussi la Hongrie, se sont donc opposées à inclure le viol dans la directive européenne qui a été adoptée aujourd'hui. Selon Emmanuel Macron et Viktor Orban, l'Union européenne n'a pas compétence en la matière.
Elle a fait bugger TikTok, TikTok.
Une restriction qui concerne les réseaux sociaux, enfin un réseau social en particulier, TikTok, qui vient de suspendre dans l'Union européenne son système de récompense pour les utilisateurs les plus actifs. Un système controversé, accusé de renforcer l'addiction au réseau des plus jeunes. Ce sujet, il avait déjà été saisi par Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL.
Naturellement, l'addiction aux écrans est un enjeu. D'ailleurs, la CNIL française, dans le cadre des CNIL européennes, c'est la CNIL irlandaise qui est plus directement compétente pour réguler TikTok, la CNIL française a saisi déjà il y a quelques mois la CNIL irlandaise sur des comportements qui nous paraissaient douteux par rapport à l'exploitation des données des enfants. Et d'ailleurs, du coup, ça a amené à une amende de 345 millions d'euros en septembre dernier sur des sujets concernant les données des mineurs de TikTok.
Fin de TikTok Lite en Europe, alors que les sénateurs américains, eux, veulent la fin de TikTok tout court. Ils viennent de valider un texte pour interdire la plateforme dans quelques mois, sauf si le réseau coupe ses liens avec sa maison mère ByteDance et plus largement avec la Chine, qui est accusée d'espionner et de manipuler les 170 millions de TikTokers américains. Le texte doit maintenant être signé par le président Joe Biden, mais il pourrait tout de même être contesté en justice.
Move 15. Tous les jours, 18h45.
Avec Sarah Loubacouche.
Cette semaine, dans 15, on vous dit tout sur l'Union européenne, les élections de juin, le fonctionnement des institutions. Et aujourd'hui, on s'intéresse au groupe politique du Parlement avec Estelle. Estelle Askip, les députés européens s'organisent selon leurs convictions.
Oui, une fois qu'ils sont élus, les 720 eurodéputés vont rejoindre l'un des 7 groupes politiques. Ils sont organisés selon les orientations politiques. Les députés choisissent où aller en se mettant d'accord avec le groupe. Et pour former un groupe, il y a quelques critères à respecter. Il faut au moins 23 députés européens originaires d'au moins 7 États membres de l'UE, soit un quart des États membres. Certains décident de n'en rejoindre aucun. Ils font partie des non-inscrits.
Et pourquoi travailler comme ça ?
Normalement, les institutions internationales travaillent par bloc de nationalité, mais le Parlement a pris un autre tournant. Olivier Costa, politologue et spécialiste de l'UE.
Le Parlement européen, dès le départ, a voulu fonctionner comme un vrai parlement, c'est-à-dire un parlement qui fonctionne selon les idées politiques des différents députés et pas selon leur nationalité ou d'autres choses.
Les groupes politiques du Parlement ont des avantages comme du personnel, du budget, mais pas que.
C'est les groupes politiques qui proposent, qui décident qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Et même la stratégie d'ensemble du Parlement européen, de quoi on va parler, c'est quoi notre stratégie vis-à-vis des autres institutions, quand est-ce qu'on se réunit, etc. Donc les groupes politiques ont vraiment un rôle tout à fait central dans le fonctionnement du Parlement européen et ça permet de refléter ce que veulent les citoyens.
Plus ils sont nombreux, plus ils sont puissants au sein du Parlement. Il y a 3 grands groupes, le Parti Populaire Européen ou PPE, Parti Conservateur de Droite, où siègent les députés français des Républicains, le Parti Socialiste Démocrate, où siègent les élus PS, le Parti des Libéraux, Renew Europe, 23 députés Renaissance en sont membres et juste derrière eux, le Parti Écolo prend de l'avance.
Mais celui qui progresse le plus, c'est le parti d'extrême droite Identité et Démocratie.
Exactement, et ça bouscule un peu les habitudes, comme l'explique Olivier Costa.
Traditionnellement, au Parlement européen, on a les socialistes et les démocrates chrétiens et les libéraux qui votent ensemble. Ils sont globalement assez pro-européens et ils se serrent un peu les coudes. Voilà, c'est l'idée que s'ils n'arrivent pas à s'entendre, il n'y aura pas de texte. Ou alors, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, le Parlement européen s'exprimera pas sur le texte et c'est dommage. Maintenant, ce qu'on voit aussi de temps en temps, et ça risque d'arriver de plus en plus souvent après les prochaines élections, probablement que la droite va travailler avec les groupes qui sont plus à droite.
En France, le RN cumule 29% des intentions de vote et selon un sondage réalisé dans 18 pays de l'UE, un député sur 5 pourrait représenter l'extrême droite dans le futur Parlement européen. Pour Olivier Costa, le risque c'est qu'après les prochaines élections, les sujets comme l'environnement ou la politique migratoire soient pris en main par des coalitions à droite comme celle du PPE et de Renew, voire des coalitions d'extrême droite.
Merci beaucoup Estelle, on te retrouve demain pour comprendre concrètement l'impact des lois européennes sur notre quotidien.
Move. Du lundi au vendredi, 18h45-19h.
15 minutes d'actu avec Sarah Loubacouche.
Alors toute cette semaine, 15 est en mode Europe et nos reporters terre nous font voir du pays et nous emmènent chez nos voisins de l'Union pour comprendre les enjeux des élections en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, direction l'Italie avec Bruno Duvic, correspondant de Radio France à Rome. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors l'Italie, c'est un pays qui a porté l'extrême droite au pouvoir en 2022 et où les jeunes sont un peu mis à l'écart. Bruno, on va commencer par la politique. Quel est le comportement des jeunes électeurs, les 18-34 ans ?
Alors, aux élections législatives qui ont mené Giorgia Meloni au pouvoir, les 18-34 ans ont voté plus à gauche que les Italiens en général, mais moins à l'extrême droite. Mais ils se sont encore plus abstenus que les autres, à 43%. Et on peut le voir comme un symbole de retrait. En fait, l'Italie est un pays de vieux, C'est le pays où la part des plus de 65 ans est la plus élevée dans l'Union européenne parce qu'il y a un problème de démographie, on y reviendra. Écoute ce que disait un vieux monsieur très respecté ici, le président de la République, Sergio Mattarella. C'était lors de son message de fin d'année dernière.
Les jeunes se sentent mis hors jeu, perdus, voire étrangers à un monde qu'ils ne comprennent pas. C'est dû au fait que leurs attentes sont ignorées.
Alors pourquoi le président dit ça ?
Alors, à cause des conditions économiques des jeunes, d'abord, par exemple, en Italie, la proportion des NEET, ceux qui sont sans emploi ni formation, est quasiment la plus élevée d'Europe. Je m'appuie pour beaucoup de choses ce soir sur un rapport sur la condition de la jeunesse en Italie qui paraît tous les ans. Il est coordonné par un institut qui s'appelle Giuseppe Tognolo. En fait, l'Italie a un problème d'intégration des jeunes dans le marché du travail. Et il y a un symbole de ça, ce sont les stages après les études. Ça concerne 300 000 personnes par an. Et à l'issue de ces stages, qui durent de 3 mois à 1 an, à peu près la moitié des personnes trouvent un emploi, mais attention, la plupart du temps en CDD. Alors j'ai interrogé Eleonora Voltolina. Elle a fondé un web magazine qui s'appelle La République des stagiaires. C'est elle qui m'a donné toutes ces informations. Et elle ajoute un élément d'explication plus général sur le marché du travail.
Les marchés du travail italien est très opaque. On engage les employés beaucoup par des situations de bouche à oreille, des connaissances directes. Et donc, pour quelqu'un qui n'a pas un vrai réseau, c'est difficile de trouver les occasions.
Et donc, il y a un système à deux vitesses. Les plus diplômés trouvent facilement. Pour les autres, c'est plus difficile.
Voilà pour l'économie. Et tout à l'heure, tu nous as promis qu'on allait parler de démographie.
Eh ben oui, parce que les deux sont liés. La démographie italienne, c'est la plus basse d'Europe. Alors, on va réécouter Eleonora. Elle est à l'origine d'une autre initiative qui s'appelle le Why Wait Agenda. Pourquoi attendre pour faire des enfants quand on le désire, évidemment.
La peur du futur, les problèmes économiques, la peur pour son travail et les manques de parité de genre. Les jeunes générations ont envie de faire des enfants, mais ils attendent. Et donc, quand tu attends trop, quelquefois, tu arrives à décider de faire des enfants quand il est un peu tard. Et donc là, il y a des problèmes de fertilité, des choses liées plutôt à la santé.
Bruno, tu voulais nous parler d'un dernier phénomène, pas majoritaire, mais important.
Oui, en moins de 20 ans, les Italiens vivant à l'étranger sont passés de 3 à 6 millions. Et ces dernières années, beaucoup étaient des jeunes avec un bon niveau de diplôme. Ils trouveraient un emploi en Italie, pourtant ils s'en vont. En novembre dernier, j'ai rencontré à Florence une jeune fille de 23 ans qui illustre ça et qui s'appelle Giada. Elle étudie l'économie de la mode, c'est un des points forts de l'Italie. Et pourtant, elle envisageait d'aller voir ailleurs pour quelques temps.
Du travail, il y en a. C'est autre chose. Il n'y a pas de possibilité de faire carrière. Notre classe dirigeante est vieille et enracinée. Il y a peu de place pour les jeunes.
Voilà, difficile de faire carrière. Alors face à tous ces obstacles, eh bien beaucoup de jeunes bouclent leurs valises et devinent ce qu'ils font une fois qu'ils ont trouvé à l'étranger un travail stable, bien payé, avec des perspectives de carrière. Eh bien des bébés. En moins de 20 ans, le nombre d'Italiens nés à l'étranger a presque triplé, plus 175%.
Merci beaucoup Bruno. Je rappelle que tu es le correspondant de Radio France à Rome. Demain, nouveau reporter Terre hors les murs. On ira dans un pays pas forcément Europe friendly. On ira en Grande-Bretagne.
Move. Du lundi au vendredi, 18h45-19h.
15 minutes d'actu avec Sarah Loubacouche.
Une semaine placée sous le signe de l'Europe dans 15. Qui dit élection dit vote. Qui dit vote dit bulletin. Un bulletin qui n'est surtout pas fait pour être gribouillé parce que ça peut bouleverser le résultat d'une élection puisque chaque vote compte, Lorenzo.
Les trois quarts des 18-24 ans ne sont pas allés voter.
La jeunesse ne vote pas.
L'abstention chez les jeunes est massive.
87% des 18-24 ans se sont abstenus.
Bon, vous l'aurez compris, les jeunes ne votent pas. En tant que jeune, on a souvent la sensation que notre vote ne sert à rien. Et c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer que mon vote à moi, Lorenzo, puisse avoir une quelconque importance. Et pourtant, si tous ces jeunes avaient grandi dans l'état de Virginie, aux États-Unis en 1971, ils seraient bien d'accord pour se dire que finalement, chaque vote compte. Allez, on y retourne. Ah là là, 1971, la belle époque. Yoko Ono et John Lennon venaient de sortir Imagine. Le PSG disputait sa toute première saison en Ligue 1. Et League of Legends n'existait pas encore. Donc oui, si je vivais à cette époque, j'aurais clairement pu avoir un semblant de vie sociale. Vous l'aurez compris, je n'étais pas né en 1971, donc je vais plutôt laisser Sandra McDonald vous raconter cette époque.
En 1971, les enfants étaient moins surveillés et passaient plus de temps dehors. La technologie était moins intrusive, les gens écoutaient plus la radio. Il y avait moins de bouchons et les parents avaient une relation autoritaire avec leurs enfants.
Ceci dit, elle a oublié un événement majeur de 1971, l'adoption du 26e amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Cet amendement est fait pour abaisser l'âge requis pour voter de 21 à 18 ans. Pour Stephen Burns, un étudiant de 18 ans originaire de Springfield, en Virginie, c'est un moment particulièrement excitant. Il va enfin pouvoir voter. Voilà, le timing est parfait, puisqu'en novembre, en plus, se tiennent les élections de l'Assemblée générale en Virginie. Sauf que Stephen Burns a deux problèmes. Le petit problème, c'est qu'il se trouve à New York au moment du vote, et se retrouve donc obligé de voter par voie postale. Le gros problème, cette fois, c'est qu'il a coché le nom de deux candidats démocrates alors qu'il souhaitait voter pour les républicains. Malin comme tout, Monsieur Stephen décide de barrer leur nom et d'écrire à côté « Je ne veux pas voter pour ces deux candidats ». Alors arrive l'énorme problème. Un candidat républicain et un candidat démocrate finissent à égalité pour l'obtention du dernier siège restant. Quand Stephen Burns rentre chez lui pour les vacances, il se rend compte que tout ça, c'est à cause de son vote à lui. Il décide donc de contacter des journaux pour faire pencher la balance en faveur du candidat républicain, celui qu'il soutenait vraiment. Mais malheureusement pour lui et sa merveilleuse détermination, les directeurs de scrutin ne veulent rien entendre. Le vote reste annulé et il décide de laisser le hasard départager les deux candidats. Les noms vont donc être placés au sein d'une coupe de mariage, puis tirés au sort. Heureusement pour Stephen Burns, c'est le nom du candidat républicain qui ressort vainqueur de ce tirage au sort. L'occasion donc de rappeler qu'encore une fois, chaque vote compte.
Morale, si vous voulez que votre vote soit comptabilisé, eh bien évitez de vous laisser aller à des petites improvisations artistiques sur votre bulletin, puisque chaque vote compte. Il est 19h passé de 1 minute, c'est l'heure de se dire au revoir, mais pas pour longtemps. Dans moins de 24 heures, on se retrouve, ça va passer très vite. Rendez-vous demain, 18h45, pour un 15 toujours aussi européen. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à notre maître d'orchestre Geoffrey à la réalisation, et place maintenant à d'autres maestros du micro, avec toute la team de Yata. 15.